Et bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce 10-10 du 10. Ah bah il y a que des 10 du 10 novembre. Nathalie au micro avec Lou et avec Rachel à mes côtés. Et un grand merci à Aurélien derrière la vitre pour la technique et pour que tout soit parfait. Aujourd'hui, nous allons recevoir Manuela Parra, qui est autrice ou auteur. Elle s'en fout. Elle s'en fout qu'elle soit autrice ou auteur. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour Manuela. Le tout est d'écrire. Poétesse, présidente de l'association Voix de l'Extrême, Poésie et Culture. Bonjour Manuela d'être avec nous.
Bonjour. Buenos dias.
Merci les filles de m'accompagner aussi pour cette belle rencontre. Manuela, on l'a eue déjà une fois depuis la rentrée pour qu'elle nous parle du jardin. De la poésie au jardin Balaruc.
Oui, ah, voilà. C'est vrai.
Manuela est une fidèle entre la fidélité qu'elle a à la radio, au 10-10 et à notre amie. Oui, elle me montre le logo sur sa communication. Et puis évidemment, les jardins d'Isis avec Marie-Agnès, qui est aussi une amie à toi. Voilà. Tu as lié des liens d'affection très forts à la radio, Manuela.
Oui, c'est vrai.
Aujourd'hui, on va parler d'un grand rendez-vous de l'automne, la sixième édition des rencontres franco-espagnoles Liberté, Libertad, qui vont se passer donc du 19 au 25 novembre dans différents lieux de la ville.
Hein. Il y en a oui, plein. Tout à fait. Oui.
Mais avant de découvrir le programme, Lou, je te propose de peut-être mieux connaître Manuela. Manuela, donc, je viens de le dire, vous êtes autrice, poétesse, traductrice. Comment la poésie est rentrée dans votre vie ?
Eh ben la poésie est rentrée dans ma vie quand j'ai rebroussé les pas de l'exil de mon père et grâce ou à cause à des poèmes de Garcia Lorca qu'il avait recopiés dans les camps. Et donc ça m'a mis sur mon histoire que j'avais refoulée depuis l'enfance puisque les Espagnols étaient pas mal stigmatisés.
Petite, vous parliez pas du tout espagnol ?
Non, j'ai jamais appris l'espagnol. Je l'entendais quand mon père parlait avec des copains espagnols qui venaient à la maison, même s'ils s'enfermaient, ou quand il y avait un peu des échanges dans ma famille, puisque moi je suis complètement espagnole et des deux côtés paternel et maternel. Mais comme c'était quelque chose qui était stigmatisant, et puis et dont on ne nous parlait pas, et puis il fallait à tout prix s'intégrer justement. Donc de ce fait, on a pratiquement presque rejeté cette culture de la honte à l'époque, puisque on était un peu comme les Maghrébins aujourd'hui quoi. J'ai navigué comme ça. Avec quand même un peu une peine, quelque chose qui était inconfortable, qui a toujours été très inconfortable, notamment du côté de mon père, quand je voyais des films comme Mourir à Madrid, etc. Et j'avais quand même cette espèce de tristesse, de nostalgie, qu'ont mes frères et sœurs et qu'ont les enfants de l'exil qui n'ont pas fait leur travail de mémoire.
Et c'est revenu par la poésie.
Et en fait, quand mon père est mort, j'avais 30 ans, et on devait écrire un livre ensemble sur sa guerre d'Espagne, parce que là, je commençais à m'intéresser. Et on n'a pas eu le temps, puisqu'il est mort d'un cancer assez fulgurant à l'époque, c'était en 86. Et donc, le dernier dimanche, il m'a donné comme ça des noms de personnes à contacter en Espagne, parce qu'il ne parlait jamais de la défaite, ni de son histoire, alors qu'il était capitaine de l'armée républicaine espagnole. Et donc, il m'a donné des noms, mais j'étais tellement émue, je faisais semblant d'eux, que je ne suis jamais arrivée à me relire. Ça a été mon drame. Et donc, du coup, je me suis remise sur... quand il est mort, ma mère m'a donné des poèmes. Elle m'a dit, ton père avait écrit ses poèmes dans les camps. Comme elle voulait pas trop non plus en parler. L'enjeu, c'était vraiment qu'on devienne français, et puis basta. Une dizaine d'années après, j'ai eu la chance de participer à une manifestation à 7 et de rencontrer un homme fabuleux qui est un tout petit monsieur d'ailleurs dont je parle dans Des frontières et des femmes, Manuel Madrona, qui m'a expliqué que ses poèmes, mon père les avait écrits dans les camps d'Argelès, dans la Baraca de la Cultura, et que c'était des poèmes de Garcia Lorca, du romancero gitano. Et donc ce monsieur qui habitait Sète a mis en place des cours d'espagnol avec un vieil ami qui est Michel Ramos, qui était prof agrégé d'espagnol à Sète et qui bénévolement nous a appris un petit groupe d'enfants de l'exil notre langue qu'on méconnaissait et il nous l'a appris par la poésie. Voilà.
Comme la poésie est rentrée dans votre vie et qu'elle continue, Lou. C'est ce que...
Vous avez traduit de nombreux poètes espagnols, parmi lesquels Antonio Orihuela, Elisa Rueda ou encore Huberto Stabile.
Et puis Gemma Estudillo, et puis bien d'autres encore.
Tant d'autres. Donc, qu'est-ce qui vous attire dans ce dialogue entre les langues?
D'abord, maintenant, je suis française et espagnole. Et quand j'ai créé l'association Voix de l'Extrême, ça répondait pour moi à deux objectifs. Le premier, c'est que j'avais la prétention, et je trouve que c'est une grosse prétention aujourd'hui, de recoudre cette frontière autour de valeurs républicaines. Et j'avais aussi envie de la recoudre à partir de la manière dont nos anciens qui se sont battus et qui ont perdu parce que bon c'était une défaite injuste parce qu'ils portaient un idéal qui était de mettre la culture au cœur de leur engagement et de transformer la société grâce à l'éducation populaire et à la culture. Donc je parlais de tatouage tout à l'heure au niveau de l'éducation populaire. Et donc, en plus, j'ai été aidée par donc Antonio Orihuela, qui est un ami, et qui, lui, a créé le mouvement Voces del Extremo en Espagne, qui veut dire Voix de l'Extrême en France, et qui m'a tendu la main, comme Manuel Madrona m'a tendu la main, lui m'a tendu la main pour m'aider à comprendre ce qui s'était passé en Espagne autour de la répression. Parce que j'en avais assez d'entendre dire en France, notamment par les républicains espagnols, les Espagnols là-bas, quand on a voulu revenir pour mettre Franco à la porte, ne nous ont pas aidés. Et quand j'ai entendu après en Espagne en disant oui, les Espagnols à l'exil ont vécu mieux que nous parce que la répression a été horrible et on le verra dans mon prochain livre, Lettres aux absentes, correspondance imaginaire entre des femmes en résistance.
Par en début d'année aux éditions chez Raphaël.
Oui. Et donc, j'en avais assez de voir ces gens qui se battaient pour les mêmes valeurs. Qui finalement en oubliait le principal dictateur qui était Franco. Et donc j'ai eu envie, et je me suis investie dans ce mouvement en Espagne et j'ai eu envie aussi de montrer en France que la poésie ça pouvait être aussi une poésie de l'engagement. Et voilà.
Parce que c'est ça l'association des Voix de l'Extrême. Elle s'articule son travail, autour bien sûr du texte, de la poésie, mais de la mémoire, de l'histoire, de la liberté. Enfin voilà, c'est
et
pas seulement
culture.
Et de la culture, c'est pas seulement. Même on a fait des anthologies. Mm. Vous avez fait paraître des anthologies de textes là-dessus. C'est pas non plus un. C'est un tout les Voix de l'Extrême. C'est pas seulement un support littéraire.
Et en fait, par exemple, pour donner un exemple, quand on a créé pour le Printemps des Poètes l'anthologie Désir, puisque le thème c'était Désir, eh bien, on a écrit Désir de femmes libres. Mm-hmm. Voilà. Donc on a pris des textes de voilà. Donc on essaye comme ça de mettre en scène ou de mettre en écriture des textes qui traitent de problèmes. Sociétaux, politiques, et tout ça en poésie, parce que on fait le pari que la beauté va permettre de d'éveiller des consciences. Voilà.
Peut-être même de sauver le monde, on peut être plein d'espoir.
Ma foi, là,
en ce moment, c'est mal barré.
Oui,
on va marquer une pause musicale tout de suite, parce que je voudrais vraiment qu'on prenne 20 minutes pour parler de tout ce qui va se passer. Cette année, c'est copieux quand même. C'est encore plus que les autres années, je trouve.
Pas, mais...
Vous avez choisi pour nous le chant des oiseaux, ou alors en espagnol, il faut le dire.
Ah non, parce que c'est en catalan.
Ah, El Cants dels...
All sales.
Compliqué le catalan, c'est pas tout à fait pareil. Et en tout cas, c'est Pablo Casals. Voilà, c'est surtout ça.
Pau Casals.
Ah voilà.
Ça c'est.
On écoute et on revient tout de suite en Espagne juste après. Et vous êtes toujours sur Radio FM Plus dans le 10-10 du 10-11. Et je suis en compagnie de Lou pour accueillir Manuela Parra qui est venue nous parler du très beau programme des rencontres espagnoles. Avec déjà, il y a des choses qui déjà interpellent la couverture qui est d'Alberti. Parce que c'est une année Alberti, si j'ai bien compris.
Oui. En fait, c'est une année hommage, comme l'année dernière, à Alberti et à Pablo Casals et à Joan Alavedra. C'est une peinture effectivement de Raphaël Alberti et la fondation nous a permis de l'utiliser pour en faire l'affiche.
Qui n'est pas sans rappeler quand même
la liberté.
Oui, puis la palombe de Picasso aussi.
Oui, mais en fait ils étaient amis. Alors voilà.
On pouvait être amis avec Picasso.
Mais c'est des peintres. Et en fait, mais moi j'avoue que celle d'Alberti m'émeut beaucoup. Ouais, et puis je l'ai vue en vrai en plus à la fondation Raphaël Alberti à Puerto Santa Maria quand j'y suis allée pour justement négocier sur les. Négocier, c'est un mot qui est trop financier, donc pour collaborer, disons, avec la fondation pour préparer les rencontres.
Voilà. Avant de passer quasiment à chaque sujet, il nous reste 20 minutes, donc c'est bien, on a le temps. Mais je voudrais quand même dire un mot sur España en Libertad. Donc c'est vrai que moi je m'en souviens très bien, j'étais au lycée Montaigne à Paris quand Franco est tombé.
Oui, en 75.
Voilà, et en 74, je me rappelle aussi de Puigantich avec... voilà, tout ça, je me rappelle quand même très bien que ce dictateur à la porte de nos villes, même si j'étais à Paris à l'époque, mais enfin bon, c'était à la porte de chez nous quand même. Les Espagnols, c'était encore les Espingouins, c'était pas joli, on n'était pas très sympa avec les Espagnols. Et donc, cette année, cette sixième édition des rencontres franco-espagnoles s'inscrit dans le projet Espagne en Libertad de 50 años, qui est à l'initiative du gouvernement espagnol.
Oui.
Ça doit être plus qu'émouvant, plus qu'important pour vous, Manuela.
C'est un cadeau. Voilà. Évidemment, je suis très contente que la sixième édition Liberté Libertad ait été, labellisée par le gouvernement espagnol, dans le cadre de ce programme et par l'intermédiaire de l'ambassade d'Espagne à Paris et le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne avec qui on travaille chaque année. Je savais pas qu'il y avait ce programme qui existait, Espagne en Libertad. Et c'est vrai que quand on a choisi Liberté Libertad, c'est vraiment parce qu'on sentait qu'il était nécessaire de fêter le retour de la démocratie à la mort du dictateur, quoi. Et donc, c'est vrai que pour nous, au-delà des rencontres, c'est quand même un hommage pour nos parents, nos grands-parents, et puis pour tous ceux qui se sont battus et qui ont subi une défaite terrible. Donc, chaque fois que le secrétaire de la mémoire, Fernando, vient en France, ou même Pedro Sánchez, qui est venu en France, ça nous renvoie au fait qu'ils reconnaissent le combat de nos parents contre un dictateur qui a fait un coup d'État. Quoi.
Et puis la rapidité aussi, enfin... Voilà, moi j'avais 20 ans, hein, même pas, la rapidité avec laquelle cette Espagne est sortie de l'obscurantisme. Quoi. Il y a eu des périodes...
Avec la Movida.
Avec la Movida, voilà, avec des excès, hein, notamment dans la drogue. Il y a eu une libération de la jeunesse qui en deux ans, cette Espagne qui était vraiment complètement noyautée par un pouvoir vraiment dictatorial, est sortie très vite, et même au niveau politique, loi pour les femmes, enfin ils sont même en avance, l'Espagne est en avance, alors que l'Espagne, dans les années 70, c'était encore les mamies en noir avec le petit fichu sur la tête. Quoi. Vraiment, c'est un pays extrêmement...
Il y a eu une telle répression que, en fait, les gens ne voulaient plus parler. Et là, il y a un très gros travail qui est fait en Espagne sur la recherche des disparus, sur la réhabilitation des républicains, le fait qu'on ait enlevé Franco del Vals de los Caídos, le fait qu'on débaptise des places et tout. Bon, je veux dire, ils renouent avec leur mémoire. Il y avait la nôtre aussi.
Et on voit aussi le courage de Pedro Sánchez face à la guerre au Gaza. En ce moment, c'est vraiment quelqu'un qui est très courageux. Avant de passer au programme, je voulais aussi quand même mettre le mot, parce que sur l'édito du maire, qui est un très bel édito, on sait que Michael Delafosse est quelqu'un qui lit beaucoup, qui aime la culture, hein, vraiment, et qui met d'ailleurs le budget, on peut le remercier, parce qu'il n'y a pas tellement de mairies qui font ça. c'était important pour vous, ce joli mot qu'il vous a envoyé?
Bah, c'est plus
qu'un travail, ouais.
C'est plus qu'important. Ouais. C'est pareil. C'est qu'il, c'est un homme effectivement qui est engagé par rapport à ses valeurs, aux valeurs que également nous portons et moi je porte aussi en tant que femme, quoi, au-delà de l'association, et son soutien depuis le début, hein, avec Agnès Robin, hein, qui est adjointe à la culture, leur soutien avec Claire Hart aussi. Ils sont toujours à nos côtés. On est une petite association qui a été créée en 2018. On n'est pas le Cinémède, on n'est pas... Et ils ont fait spontanément confiance. Et ça, ça fait du bien parce que on se dit, voilà, on porte des valeurs. On les porte en mettant en évidence la culture, en mettant en évidence des grands et des plus anonymes qui se sont battus pour la liberté, pour qu'on hérite de la liberté aujourd'hui, et ils sont à nos côtés. Et donc, pour moi, ça me touche beaucoup, et je le remercie, et je remercie toutes les institutions et qui nous soutiennent, parce que il y a des institutions, mais il y a aussi des partenariats qui se nouent de plus en plus. RFM+,
avec nous notamment.
Non, mais il n'y a pas que RFM+. mais tout, moi, je vois l'Université du Tiers-Temps, SOS Méditerranée, avec qui on bosse beaucoup, la région, l'académie, hein, avec qui on travaille, parce que bon, on travaille beaucoup avec les lycées. Il y a beaucoup, de plus en plus de lycées qui sont partie prenante de notre projet. Des associations mémorielles, SORAM cette année.
On va descendre tout ça puisqu'on va tous les faire.
Mais voilà.
Donc, je vous propose que toutes les trois, on descende la programmation.
L'ouverture aura lieu le 19 novembre à 18h à la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous...
Par un hommage à Casals.
Oui, on a entendu son chant et c'est vrai que c'est un homme qui m'a séduite parce que c'est un homme entier. Et bon, il est parti, il a fait la rétirade. Après
je sais pas quand est-ce qu'il est mort, Casals.
Je me souviens plus qu'il est mort, j'ai plus en tête. Mais lui, c'était un Catalan. Et la Maison des Relations Internationales a un partenariat avec Barcelone, avec la Catalogne. Donc, ça me paraissait évident d'aller rendre le premier hommage là-bas avec Jean-Jacques Bedu autour de son livre Pablo Casals, un musicien, une conscience, qui a été édité chez Gallimard. Et il a écrit ce livre à la demande du festival de Pablo Casals pour justement mettre en lumière l'engagement, hein, de Pablo Casals, qui a refusé ensuite de jouer. Pablo Casals, c'est le maître du violoncelle.
Du violoncelle.
Ouais, c'est lui qui... C'est le grand mondial, quoi. Et donc, qui s'est exilé à Prades.
Pas Prades-le-Lez, hein,
à Prades dans les PO, qui a créé le festival et qui a refusé de jouer longtemps dans des pays qui avaient aidé les franquistes. Et pourtant, c'est un virtuose, quoi. Et puis, il a quand même créé le chant des oiseaux qui est un hymne, hein, qui est un hymne fabuleux, et il a joué du moins. Et il a été pour ça à l'ONU, aux Nations Unies, c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vrai que Jean-Jacques Bedu en a fait un livre. Et lui, sa grand-mère était originaire de Prades et elle a connu Casals. Yes. Voilà, donc il a écrit un très, très... C'est un très joli livre avec des photos, etc. Et il a accepté de venir faire une conférence, une intervention. Il y aura aussi, il nous mettra un peu de musique aussi.
Donc ça sera le 19 à 18h. On a beaucoup de choses, excusez-moi de mettre un peu la pression,
mais c'est ça que je
l'évite. On veut. Donc ça, et alors si on a aimé, si on a été passionné par ça, on peut retrouver le lendemain, on va revenir sur ce qui se passe à 14h, mais à 19h à la salle Pétrarque, un récital, concert, lecture, donc l'oratorio El Pesebre. Donc, sur des paroles de Joan Alavedra et une musique de Pau Casals. Oui. Et alors, là, c'est quand même assez étonnant parce que ce matin, on a reçu parce que l'émission est en différé. C'est la deuxième fois que tu vas découvrir ce nom, c'est Gemma Durand, parce que Gemma Durand sera la présidente de l'Académie des sciences. Oui. Et ce matin, on a enregistré l'Académie des sciences.
Ah, voilà.
C'est pour ça que voilà, on la retrouve là.
Et donc, parce que c'est comme... la petite fille d'Alain Veda.
Voilà. On va la recevoir. Je sens qu'on va la recevoir. Et comment ça se construit un récital?
Eh bien, en fait, elle avait déjà produit ce récital avec Cyril Tricoire-Douarot, hein, le premier violoncelliste de l'orchestre de Montpellier. Et j'ai eu ses coordonnées par le consulat d'Espagne à Montpellier. Et en fait, je l'ai contactée et de suite, elle a répondu présent. Et elle vient bénévolement. Son livre a été publié par Domès. Et donc, spontanément...
Par Jean-Charles Domès ?
Oui, par les éditions Domès.
Pesnas,
voilà. Et donc, elle a contacté Cyril de Tricoire et tout, et ils ont accepté de venir pour ce moment prodigieux, quoi. Et je les en remercie, parce que nous, on n'est pas une grande association.
Mais c'est une très chouette association. On a essayé de le montrer ce matin avec la présidente de cette année, Michèle Verdeillant, justement, qui n'a pas l'aura sur Montpellier qu'elle mérite, cette association. Il faut la faire connaître, et là, ça sera une occasion. Et alors, le même jour, mais un peu plus tôt, à 14h, à Castelnau-le-Lez.
Oui, là, je suis très contente, parce qu'enfin, avec joie, on a pu mettre en place... avec les responsables du musée de la résistance et de la déportation de Castelnau-le-Lez, une visite guidée où on mettra en évidence aussi toutes les œuvres de Violette Rougier, la résistante infirmière qui est partie à Ravensbrück et qui fait partie de toutes ces femmes qui ont écrit pour témoigner ou qui ont dessiné et peint pour témoigner, même si elles savaient qu'elles risquaient leur vie dans le camp.
Et donc, ensuite, le 21 novembre à 18h, à la librairie Sauran.
Donc, encore un nouveau lieu. Là, on en a au quatrième lieu.
Témoignage autour de Francisco Estudillo Orellán.
Donc, c'est le grand-père de Gemma, Gemma Estudillo, qui est une très belle personne, qui est aussi une très belle poétesse. Et qui va nous raconter l'histoire de son grand-père à Casavieja et aussi la répression qu'il a subie dans des camps, parce que les premiers camps ont été en Espagne. Quand Franco a pris le pouvoir en Espagne, il a ouvert des camps. Il y avait des bagnards, il y a beaucoup de gens qui sont morts, morts de faim, ou qu'on tuait avant parce qu'il n'y avait pas assez à manger. Et donc, lui, il a vécu tout ça. Et donc, Gemma, que je connais bien, puisqu'elle fait partie aussi de Voces del Extremo, je lui ai dit, tu ne voudrais pas venir le présenter en Montpellier? Elle m'a dit, bon, pourquoi pas. Et ensuite, après cette petite présentation avec Sorams, notre partenaire, parce que je suis ravie d'annoncer ce premier partenariat avec Sorams, eh bien, sera suivi des lectures un peu sur ce thème-là, avec des poètes. Donc, il y aura Antonio Orihuela, qui va nous donner une petite vision du flamenco que l'on n'a pas l'habitude d'avoir. En plus, je sais qu'il y a le festival de flamenco à Montpellier, aux alentours de Montpellier, et nous montrer comment le flamenco, à l'origine, était un flamenco de lutte, et non pas un flamenco construit par le tourisme. Et donc, il va nous lire un poème là-dessus. Et donc, il y aura Huberto Stabile aussi, un autre poète, qui aussi, lui, est directeur de la fondation Rafael Alberti de Puerto Santa Maria. Voilà.
Et puis, on souligne que vous pourrez retrouver aussi Pierre Berland, que vous avez peut-être découvert le 14 octobre au Gazette. Le samedi 22, grande journée.
Oui, comme chaque année, oui.
C'est le point... Tout est fort, mais c'est un des points forts. Donc, à l'auditorium, médiathèque et Misola, donc un cinquième lieu. Et là, c'est Agnès Robin, qui est adjointe à la culture, qui va animer donc Raphaël Alberti, un siècle de création, le centenaire de Marinero de Tierra.
Oui.
Vous pouvez nous en dire plus.
Eh bien oui, en fait, on va passer l'après-midi avec plusieurs facettes, un peu comme on avait fait avec Georges Semprun, pour Georges Semprun, c'est-à-dire qu'il y aura la projection d'un film de Fernando Santiago Muñoz sur El Retornos de Rafael Alberti. C'est un documentaire qui sera sous-titré. Et ensuite, j'ai proposé que l'on fasse un entretien que j'aurai le plaisir d'animer, et qui sera traduit, interprété par Maria Lourdes Aparicio, sur cet homme engagé, ce poète, ce peintre et ce dramaturge que l'on méconnaît. Et pour cela, j'ai demandé à Manuel Aznar Soler, qui est professeur de littérature espagnole à l'Université Autonome de Barcelone et qui est fondateur et directeur du groupe d'études de l'exil littéraire, qu'ils viennent nous rejoindre. Donc, ils ont accepté. Donc, pareil, là, ce sera traduit. Et donc, on parlera du centenaire de Marino Rentiera, puisque il est sorti en 1925. Avec cela, Raphaël Alberti a eu le prix national de littérature. Voilà. Donc, c'est une image par rapport. C'est un des créateurs de la génération 27. Donc, c'est quand même quelqu'un d'important qui a marqué la poésie internationale. Mm-hmm.
Excuse-moi, on va finir cette partie-là, puis après, je te laisserai parler de tout ce qui se passe avec l'éducation, s'il y a plein de choses qui se passent.
Sans problème.
Ça va durer combien de temps? 14h30, toute l'après-midi, quasiment?
Oui, parce qu'on fera un petit... récital de quelques poèmes d'Alberti, ouais. Mm-hmm. Et puis on clôturera avec Antonio Rihuela, qui a voulu rendre hommage à Jean-Hervé Mirouz à Montpellier, et qui a écrit un poème à son honneur, et puis qui dira quelques poèmes à son honneur aussi ce jour-là, qui seront aussi traduits. Voilà.
Et le 23, donc le lendemain, à 15h, on se retrouve toujours à la médiathèque Emisela, pour un récital, lecture, concert, après le court-métrage, après la diffusion du court-métrage d'Alain René, Guernica.
Oui. C'est que mon nom ne s'efface pas de l'histoire. Ça, c'est une phrase qu'a dit une des 13 roses, qui a écrit une des 13 roses à ses parents, et avant qu'on la fusille, ça fait partie de l'histoire qu'on racontera des 13 roses à ce moment-là. Et donc, c'est le prochain livre, Lettres absentes, correspondance imaginaire de femmes en résistance. Et j'ai eu envie
d'en parler parce que
ce sont des femmes qui se sont battues pour la liberté, mais il n'y a pas que des Espagnoles. Il y a aussi Inès qui est espagnole et qui a fait de la résistance en France, qui est partie à Ravensbrück comme Violette Rougier. Donc dans le livre, il y aura aussi Violette Rougier. Et puis, il y a aussi l'histoire de Louise, qui est un personnage qui n'a pas voulu parler sur ce qu'elle a vécu alors qu'elle a été à Ravensbrück également.
Voilà. Et de mémoire, notez dans vos tablettes, je crois que c'est le 2 février que vous le présenterez à la Gazette.
Voilà.
Hein, de mémoire, j'ai quand même une bonne mémoire. Et donc, les textes seront lus par Marie-Noëlle Arras, Zia Pralon, Alexandre Pralon et vous-même. Oui. Et puis, vous pourrez retrouver ces deux magnifiques musiciens que j'ai découverts lors de la poésie au jardin à Balaruc. Oui. Baptiste Gélineau et Juan Etchepuig à la contrebasse et au saxo.
Oui.
Donc, saxo ténor, j'ai découvert ce très bel instrument. Le mardi 25, c'est la fin.
Oui.
À la Gazette Café, donc encore un nouveau lieu. Et donc, vous proposez La Liberté Retrouvée. C'est la clôture de la 6e édition. Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là?
Alors, c'est la clôture, mais avant cela, il y a toute une partie de transmission.
On va en parler. On va en parler. C'est Lou qui va prendre
en
main.
Oui, en fait, on va faire cette clôture cette année en soutien à SOS Méditerranée. Qui pour nous est très important pour montrer, si vous voulez, l'enjeu, c'est bien de montrer que la question de l'exil d'hier, c'est aussi la question de l'exil d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on est très heureux de ce partenariat, puisque c'est toutes les années, et donc on a eu envie de faire cette soirée en soutien. Ce sera à 20h à la Gazette Café.
Et on retrouve Pierre Berlin.
Et on retrouve Pierre qui va nous faire une conférence comme il a fait récemment. Que j'ai eu que des bons retours sur les relations tumultueuses.
Il y a eu du monde en tout cas.
Oui, c'était plein.
C'était plein.
De relations tumultueuses entre la France et l'Espagne. Et on espère autant de monde le 12 novembre d'ailleurs.
Et puis, comme vous le disiez, il nous reste 3 minutes, donc je voudrais qu'on aille assez vite, et ouais, ça va vite, sur la partie transmission, donc qui commence le lundi 24.
Donc, on a les mémoires historiques de la guerre au chemin de l'exil, qui est en partenariat avec le lycée Jean Mermoz. Oui. Et ensuite, à 13h45, au lycée Jules Guest. Oui. Donc, dans ces deux cas, c'est réservé aux lycéens et collégiens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, ben c'est le partenariat avec GED, c'est quelque chose qui est depuis le début pratiquement. Et ensuite, Mermoz, c'est une nouvelle initiative. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'ils vont travailler sur les disparus des fosses communes avec un lycée d'Alcalá de Henares, dans le cadre d'un Erasmus+. Et le soir, nous allons nous retrouver à la salle Pétrarque, hein, sur présenter un projet Graines de résistance qui a été fait avec un groupe de professeurs et surtout par leurs élèves. Et là, on va présenter des cartes interactives. Donc ça, c'est ouvert au public, hein, des cartes interactives de faits de résistance qui se sont passés à Montpellier. Et donc ça, c'est très très important parce que c'est un travail fabuleux qui a permis à des enfants de, c'est important la transmission aussi, de recevoir des valeurs et de construire des projets à partir de ça.
Et ça se termine à 13h30 le 25 novembre au lycée Collège d'Excellence Françoise Combes par
la traversée. Voilà. Peinture animée de Florence Miaille. Donc aussi, c'est la deuxième année qu'on est partenaire avec le lycée et collège d'excellence Françoise Combes. Et c'est là où on va avoir SOS Méditerranée, qui fait à la fois une exposition qui durera plusieurs semaines et qui aussi animera, après le film, un temps avec les élèves. Je crois que les auditoriums sont tout pleins déjà, parce que les lycées accueillent d'autres lycées. Et là, par contre, ce n'est pas ouvert au public.
On le connaît, parce que Lou a participé à une session sur culture et contre-culture aux États-Unis dans ce fameux auditorium, avec Aurélien et Olivier qui nous accompagnent pendant cette émission. Ouais. Il reste une minute.
Oui.
Comment savoir plus ?
Les entrées sont libres. Dans la limite des places disponibles. Et on vous attend.
Un site internet.
Un site internet. Alors, le site internet, c'est...
Contact, voilà.
paramanuelle@gmail.com. Voix de l'extrême, tout se tient, @gmail.com. Le blog, https://voixdelextremeculture.blogspot.com. Et le site de Facebook, voilà. Donc,
beaucoup de moyens d'en savoir plus, parce que vraiment, la programmation est riche. Oui. Si vous voulez en savoir plus sur toutes les présentations qu'on a fait avec Lou, allez-y, vous avez encore plus de détails. Oui. Et puis,
on va mettre les dépliants, les brochures dans des lieux publics, donc n'hésitez pas. On a fait de quoi cette année. On va laisser quelques-uns là, voilà.
Ben, merci beaucoup, merci. Manuela, pour ce 10-10 du 10-11.
Merci Lou, merci Nathalie.
Et puis, je ne serai pas avec vous cette fois-ci, hein, voilà. L'année prochaine, on se donne d'autres rendez-vous, c'est super. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à participer à cette 6e édition des rencontres franco-espagnoles. Et puis, à très bientôt pour un autre 10-10. Au revoir.
Au revoir.